Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dialectique. Quel plaisir de vous retrouver comme tous les vendredis à 13h sur RCN 90.7. Alors aujourd'hui dans Dialectique, nous allons parler travail, plutôt emploi, et plus précisément du projet de loi plein emploi initié assez récemment. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir par téléphone aujourd'hui le chercheur et sociologue du travail, Ali Boulayoun. Comment allez-vous?
Bonjour, vous m'entendez?
Oui, je vous entends très bien.
Attendez, je vais peut-être mettre mon téléphone un peu plus fort parce que...
Alors...
Voilà.
Voilà, donc Ali Boulayoun, je vous laisse vous présenter pour nos auditeurs.
Oui, alors je suis sociologue du travail à l'Université de Lorraine. Je m'intéresse, moi, plus particulièrement donc à la question de l'emploi en tant que sociologue du travail. Et je travaille notamment sur le chômage, les politiques publiques, l'accompagnement, l'insertion, etc. Enfin, voilà, tout ce qui tourne autour de la question donc du chômage et de l'emploi.
Alors aujourd'hui, nous, on va s'intéresser plus particulièrement au volet RSA de ce projet de loi plein emploi. Mais d'abord, pour récapituler, en quoi consiste-t-il? Quelles sont les grandes lignes de ce projet de loi?
Alors, ce projet de loi, il me semble, hein, si j'ai bien lu, il s'inscrit donc dans une perspective de plein emploi. Hein, c'est donc ce RSA ce plein emploi, pardon, cette histoire de plein emploi qui est au cœur de cette loi et qui vise donc le plein emploi d'ici 2025. Mmh. Alors, peut-être faut-il dire deux mots hein, du plein emploi, parce que c'est une notion qui n'est pas toujours évidente à comprendre. Le plein emploi, ce n'est pas un emploi pour tous, hein, c'est une formule qui veut dire en fait que les moyens de production, c'est-à-dire les machines et la main-d'œuvre, sont utilisés pleinement et de manière satisfaisante dans un contexte économique donné. Donc il désigne, si vous voulez, autrement dit, un niveau idéal d'emploi dans une économie.
Alors, c'est... Allez-y, je vous en prie.
Oui, et quand les économistes parlent de plein emploi, c'est aussi pour dire qu'il n'y a plus, ou presque plus, de chômage involontaire.
Donc, il y a...
Et donc, c'est dans cette perspective que est pensé le plein emploi aujourd'hui. Mais moi, je pense qu'il faut quand même préciser des choses, parce que sans trop entrer dans la théorie économique, on peut dire qu'il n'y a jamais eu vraiment de période de plein emploi, y compris dans la période, vous savez, des 30 Glorieuses, on parlait de plein emploi, où il y avait un taux de chômage relativement bas de 2-3% de la population active. Aujourd'hui, on peut dire vraiment, enfin, en tout cas c'est comme ça que les économistes pensent le plein emploi, c'est donc un niveau d'emploi acceptable dans une économie où le taux de chômage est, on pourrait dire, contenu dans des limites, on va dire, raisonnables. Mmh. Et aujourd'hui, c'est à peu près 4-5% de taux de chômage, donc, alors qu'on sort d'une période où on était plutôt autour de 10-15%.
Alors, selon les chiffres que j'ai transmis par les confrères des Échos, en ce moment, on est à 7,1%. Et avec ce projet de loi, on espère être autour de 5% du taux de chômage en 2027.
Oui, d'ici 2025-2027, c'est 5%. Bon... Le problème, c'est toujours pareil, c'est comment on comptabilise le chômage. On sait très bien que la façon dont on recense le chômage en France pose problème. Hein. Il y a plusieurs sources, et les sources ne sont pas toujours concordantes. Hein. Si on prend, par exemple, le chômage INSEE, c'est-à-dire le chômage qu'on appelle PSERE, la population sans emploi à la recherche d'un emploi, il est souvent supérieur au taux de chômage qui est annoncé par par Pôle emploi, lui qui comptabilise les demandeurs d'emploi. Mmh. Donc il y a toujours une différence, si vous voulez, entre chômeurs et demandeurs d'emploi. Mmh. Et puis sans compter qu'on oublie souvent de recenser d'autres catégories de chômeurs, hein, les chômeurs découragés, etc. Mmh. Donc 7%, c'est je ne sais pas comment ce sera calculé, mais c'est un taux de chômage qui me semble quand même relativement bas. Mmh.
Et alors donc on peut se dire, alors si ce taux de chômage est bas, quel est le problème au final?
Il n'y a pas de problème. Je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est, il faut voir cette loi d'une autre façon, je pense. Je pense que c'est une loi qui vise surtout à mobiliser une population qui en serait éloignée. Mmh. On est plus, à mon avis, dans cette perspective-là. Mmh. Avec le risque, je pense, de précariser encore davantage le marché du travail. Mmh.
Ça, on va y revenir. Hein. Mais d'abord, Ali Boulayoun, pouvez-vous nous donner un aperçu de la partie de la loi pour le plein emploi qui concerne le RSA et la nécessité pour les bénéficiaires d'effectuer ces fameuses 15 heures d'activité par semaine, donc comme une contrepartie?
Oui, moi ça me semble poser problème, parce qu'effectivement c'est une obligation qui va être faite donc aux allocataires du RSA, pardon, une obligation pour le foyer, hein, pour se mobiliser, et l'allocataire donc devra être inscrit comme demandeur d'emploi. Ce qui n'est pas systématiquement le cas jusque-là. Hein. Mmh. Et effectivement, il va y avoir, une pression à des conseils départementaux pour que les allocataires du RSA s'inscrivent à Pôle emploi, ce qui va devenir France Travail. Mmh. Hein. Et cette obligation qui est faite à l'allocataire, moi, il me semble qu'elle est quand même assez inédite, même si elle n'est pas vraiment surprenante, hein, parce que, comment dire, la contractualisation, la conditionnalisation s'est faite en plusieurs étapes. Hein. Mmh. Au départ, à l'époque du RMI, quand on a créé en 1988 le RMI, mmh. On parlait plus d'insertion des allocataires que d'un contrat d'insertion.
C'est ça, revenu minimum d'insertion, hein, je rappelle pour nos auditeurs. RMI.
Voilà, le revenu minimum d'insertion. Mmh. À l'époque du RMI, je fais quand même une petite histoire parce que ça me semble être important quand même, pour que les auditeurs comprennent un peu comment les choses ont évolué. Hein. L'insertion, à l'époque du RMI, elle était vue d'ailleurs comme une ardente obligation. Hein. Mmh. Une ardente obligation de la nation envers les exclus, hein, comme on disait alors. Mmh. Et c'était... À l'époque du RMI, en tout cas à ses débuts, on laissait, on pourrait dire, les gens un peu tranquilles. Mmh. On leur octroyait un revenu minimum, et ce revenu minimum était considéré comme un véritable droit. Mmh. Et après, quelques années plus tard, dans les années 90, hein, à la suite d'un certain nombre d'évaluations qui ont porté sur ce dispositif, on n'a plus vraiment parlé d'insertion, mais de la nécessité d'accentualiser la contractualisation. Mmh. C'est-à-dire, en fait, à l'époque, il n'y avait pas assez de contrats d'insertion de signer, et donc on a mis la pression sur les allocataires et les travailleurs sociaux pour qu'ils signent davantage de contrats. Mmh. Et cette idée de contrepartie, hein, qui est au cœur, finalement, de l'activation des allocataires, n'a cessé de s'amplifier. Et d'ailleurs, en 2007, hein, on est passé du contrat d'insertion avec le RMI au contrat d'engagement restaurant avec le RSA. Mmh. Et vous voyez, les termes mêmes vont changer. Hein. Mmh. On passe d'un contrat d'insertion à un contrat d'engagement réciproque.
Et là, à ce moment-là, C'est un moment de bascule parce que on peut dire qu'il y a un changement de philosophie. Avec le RMI, comme vous l'avez si bien dit, il y a une notion d'insertion qui d'ailleurs colle avec la Constitution, hein, qu'on doit avoir des moyens décents, en tout cas des moyens de subsister. Et ensuite, avec Sarkozy en 2007, on change la philosophie. Et je vous laisse poursuivre sur cette naissance du RSA.
Oui. Alors justement, pour dire les choses autrement, je pense que le revenu minimum tel qu'il est envisagé aujourd'hui dans la loi n'est plus un droit. Je m'explique. Hein. Bon, alors je suis pas juriste, hein, mais je considère que dès qu'un droit est conditionné à un comportement, en l'occurrence, hein, c'est le cas dans le RSA, ça ne peut plus être un droit. Alors, le RMI n'a jamais été vraiment un droit, hein, ça a été une allocation, mais qui était quand même aussi conditionnée à un comportement, une attitude, hein, que devait adopter l'allocataire, hein, qui était donc la volonté de s'insérer. Mais avec le RSA, le curseur a largement bougé, je dirais. Hein. On n'est plus ici dans une logique, hein, je dirais, de devoir que de droit. On pourrait résumer ça comme ça, hein. Tu auras ton allocation qu'à la condition où tu t'engages dans l'activité.
Et là aussi, il y a peut-être une confusion dans les termes entre le travail et l'emploi, parce que ce qu'on entend souvent, c'est que voilà, il y a ce mythe de l'assistanat, la personne au RSA serait dans l'oisiveté et profiterait, oui. Alors que dans les faits, on voit que ce sont des personnes qui s'engagent souvent dans le tissu associatif ou qui travaillent dans les tâches qui ne sont pas, qui ne rentrent pas dans le capital. En tout cas, par exemple, pour les mères au foyer.
Oui, absolument. Hein. Considérer les allocataires du RSA comme des inactifs, c'est absolument inexact. Hein. Les allocataires du RSA sont actifs. Hein. Alors, comme vous dites, hein, effectivement, certains s'engagent dans le tissu associatif, hein, font des heures de bénévolat. D'autres sont dans la recherche d'emploi, hein, comme les chômeurs, même si un certain nombre d'entre eux ne sont pas donc à Pôle emploi. Hein. Il n'y a que 40%, je crois, des allocataires du RSA qui sont à Pôle emploi. La grande majorité, hein, des allocataires du RSA, je dirais même la très grande majorité des allocataires du RSA, hein, sont actifs, hein, effectivement. Et on a aussi qui aident la famille, qui gardent les enfants, qui... voilà. Mmh. Et aujourd'hui, le problème, c'est que on voudrait conditionner donc une allocation, qui est un droit, à donc l'exercice d'une activité. Et encore une fois, je pense que le RSA ne peut plus être considéré comme un droit dès lors qu'il est conditionné. Regardez, les allocations familiales qui sont un droit ne fonctionnent pas comme ça. Hein. Les allocations familiales ne sont pas conditionnées à l'éducation que vous allez donner à vos enfants. Hein. Voilà, le problème, il est là, à mon sens. Hein. On peut se demander, effectivement... il y a eu un point de bascule, hein, qui a commencé en 2007 et qui s'accentue aujourd'hui. Et là, on est dans la gradation, je dirais. Hein, on est monté très haut. Quoi.
Alors, pour revenir sur le contexte de l'emploi en France, comment, selon vous, cette mesure s'inscrit dans ce contexte-là plus large de la politique de l'emploi aujourd'hui ?
Alors. Cette mesure, hein, est une partie seulement de la politique de l'emploi, mais elle va toutefois concerner pas mal de gens. Hein. Pas tous les allocataires, je pense, hein, parce que certains ne seront pas disponibles, hein, ne sont pas disponibles, hein, c'est comme les chômeurs, hein, ils peuvent être malades, par exemple. Hein, mais en gros, ça va concerner à peu près 2 millions d'allocataires. Et cette mesure, donc, va consister, comme on dit dans notre jargon, va consister à activer donc les allocataires, donc c'est-à-dire à conditionner l'allocation à une activité de travail, une activité de travail au sens large. Hein. Je pense que cette activité de travail qui va donc être être la condition hein, pour obtenir l'allocation, que cette activité va probablement être pensée différemment sur le territoire. Je pense que certains départements vont sans doute privilégier, on va dire, des actions d'accompagnement qui se présenteront sous le terme d'activité. Hein.
Quel type exemple, d'activité pas,
moi, des remises, des actions de remise à niveau, des ateliers de remobilisation, des séances de recherche d'emploi ou de rédaction de CV. Enfin, des choses assez classiques, somme toute. Hein. Mais qui vont être, comment dire, définies comme, comme des activités. Hein. D'autres départements, je pense, vont plutôt s'orienter vers des activités de travail qui seront probablement qualifiées d'activités d'intérêt général. Hein, et qui vont, et c'est ça le problème à mon avis ici, qui vont probablement être justifiées par un manque de moyens financiers. Hein. Bah, il est tout à fait possible, hein, je pense, que l'on mobilise des allocataires hein, pour venir en aide. Pour venir en complément hein, d'un emploi, par exemple. J'ai en tête une expérience hein, qui se déroule actuellement dans, dans un petit village du département de l'Eure, en Normandie, où des allocataires du RSA ont été mobilisés pour végétaliser un cimetière.
Ah oui,
ils travaillent de concert avec un employé municipal.
Et donc ça, c'est est-ce que ce type d'usage est fait pour colmater les brèches ou parce que derrière on se rend compte aussi qu'il y a certaines municipalités qui se retrouvent en difficulté et est-ce que ça sera aussi ça peut servir de levier pour voilà pour employer à moindre coût des personnes.
C'est toute la question aujourd'hui. Hein. Je sais qu'il y a pas mal d'observateurs qui parlent très clairement de, voilà, de, du développement du travail gratuit. Hein. Une collègue, un mot de Simonet, qui travaille un peu sur ces questions, dit très clairement que le RSA dans sa nouvelle version, ça va être effectivement l'ouverture au travail gratuit. C'est ce que dit aussi un député NUP, je crois, Adrien Clouet, qui est d'ailleurs sociologue, hein, qui parle aussi de, du développement du travail gratuit. C'est effectivement un gros risque. Bon, on le voit dans l'expérience de l'heure, hein, parce que ces allocataires-là n'ont pas été payés pour effectuer le travail de végétalisation. Hein, c'est parce que justement, ils sont allocataires hein, qu'on les a mobilisés pour faire ce travail. Donc, à mon avis, c'est un risque possible, bon, qui sera toutefois limité parce que je pense que on va plutôt inscrire les allocataires du RSA dans des activités peu ou pas qualifiées. Mais il est tout à fait possible que je pense notamment aux collectivités locales hein, qui aujourd'hui manquent pleinement de moyens d'utiliser, peut-être pas de mobiliser l'ensemble des allocataires du RSA, mais en tout cas d'utiliser une partie de ces allocataires pour effectuer des travaux donc, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'embaucher, quoi, de créer des emplois.
Alors, vous, en tant que chercheur, quelles sont vos observations sur l'efficacité des dispositifs obligeant les bénéficiaires du RSA à effectuer un certain nombre d'heures d'activité pour maintenir leurs prestations? À titre d'exemple, au Royaume-Uni, des prestations du même type avaient été conditionnées et on s'est rendu compte au bout de plusieurs années que ça ne fonctionnait pas et que ça risquait d'accroître la précarité. On trouvait des personnes qui n'arrivaient plus à payer leur loyer, qui n'avaient pas de temps pour chercher un emploi qui était mieux rémunéré et ça ne fonctionnait pas. Alors vous, est-ce que on peut faire un comparatif avec la France?
Écoutez, c'est difficile comme ça de comparer d'un pays à l'autre, hein, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes traditions, les mêmes normes, etc. Mais pour répondre à votre question, je dirais tout d'abord que dans cette loi, on fait comme si les allocataires du RSA étaient des inactifs. Non, les allocataires du RSA sont actifs. Ils sont actifs, je le disais tout à l'heure, quand ils recherchent un emploi, quand ils se rendent aux convocations des travailleurs sociaux, quand ils prennent ici et là des petits boulots pour compléter leurs maigres revenus, parce que il faut pas se le cacher, hein, il y a des allocataires du RSA qui ne trouvent pas à s'employer sur le marché du travail ordinaire, mais qui vont faire des petits boulots. Vous savez, parfois, un frigo tombe en panne, alors pour nous, c'est pas très difficile, on sort la carte bleue, puis on va racheter un frigo. Mmh. Pour un allocataire du RSA qui gagne 600 balles par mois, ça se passe pas comme ça. Hein. Mmh. Pour peu qu'il ait des enfants, acheter un frigo, c'est compliqué. Et il va falloir trouver de l'argent, travailler, etc. Vous voyez. Mmh. Mais une bonne partie de l'activité des allocataires échappe au regard de l'institution. Et je pense que c'est en les activant comme on le fait aujourd'hui qu'on inscrit finalement la mesure dans une logique de contrôle social. moi je pense que là on est plus dans la prospective. Il faut en venir à l'efficacité de ce type de dispositif pour comprendre ce qui s'y joue. Moi, je pense qu'il est trop tôt, en tout cas aujourd'hui, pour mesurer, on va dire, l'efficacité d'une telle mesure en termes d'emploi.
On manque de recul.
Oui, tout à fait, parce que là, il y a quelques expériences de mise au travail des allocataires. Mais on n'a pas encore vraiment de recul pour voir finalement comment cette mesure va se déployer sur l'ensemble du territoire.
Est-ce qu'il existe déjà des recherches, des données qui prouvent ou qui réfutent l'efficacité de telles mesures en faveur de la reprise de l'emploi?
Alors ça, je pense qu'il faudrait poser la question plutôt aux économistes. Moi, je vous avoue que sur cette question-là, j'ai pas beaucoup de connaissances pour apporter un éclairage précis. Oui, quand je dis qu'il faut demander leur avis aux économistes, parce que je sais que les économistes sont friands de ce genre d'études qui portent sur l'efficacité des dispositifs. Alors, je sais qu'il existe plein de travaux sur le sujet. Mais c'est des travaux qui sont assez indigestes, c'est des travaux de microéconomie en fait. Où il s'agit bien souvent de mettre en équation des comportements supposés, faire ensuite tourner un espèce de modèle mathématique, et on en tire des résultats. Moi j'avoue ne rien comprendre à cette pratique de l'économie. Moi j'attends plutôt de voir dont on sera fixé dans quelques mois pour voir quelle est l'efficacité réelle de cette mesure. Mais moi, je suis assez dubitatif. Il faudra voir ce que disent les autres collègues. Mais voilà, moi j'attends de voir les résultats.
Alors, on parle ensemble d'aide sociale, de reconnaissance sociale, et on va s'octroyer une petite pause musicale en parlant toujours de reconnaissance avec Thury dans son morceau « Reconnu sans être riche ».
Ça pue la merde d'être reconnu sans être riche. Qu'est-ce que ça pue la merde d'être reconnu sans être riche? Ouh, ça pue la merde. Yeah. Ça pue la merde d'être reconnu sans être riche. Qu'est-ce que ça pue la merde d'être connu sans être riche? Ouh, ça pue la merde d'être connu sans être riche. Wow. Parler à Luzen de Yakuza en DM, sans pour autant rouler dans une BM. C'est un monde de requins, c'est un monde de TN. Je devrais être sponsorisé chez Nike. On a perdu des plumes avec Eddie en réalisant Bleu Gospel. Aujourd'hui sa caisse est à la casse. J'ai perdu l'amour de gens qui m'aimaient vraiment. J'ai mille et une raisons d'avoir un gun à la casse. J'suis pas de la nouvelle école. 3 ans et demi, le temps passe vite, mon bébé jacte. Plus j'essaye de pas ressembler à mon père, plus je lui ressemble, il me reste plus qu'à peser mes actes. J'fais pleurer les femmes, j'fais pleurer les fans. Ceinture noire de canapé, au moins 10e dan. Si j'ai taclé ta femme, mon gars excuse-moi. Faut mettre les protèges tibia, négro c'est la canne. Ça pue la merde d'être connu sans être riche. Qu'est-ce que ça pue la merde d'être connu sans être riche? Ouh, ça pue la merde. Yeah. Ça pue la merde d'être connu sans être riche. Qu'est-ce que ça pue la merde d'être connu sans être riche? Ouh, ça pue la merde d'être connu sans être riche. Wow. J'suis au téléphone avec Ousbad, j'essaye de lui expliquer que personne ne l'aime vraiment, que le monde est vraiment méchant, que pour l'instant les gens le collent comme un aimant. Mais à la première sauce, ou s'il sort pas de musique, il connaîtra le sable mouvant. Y'a que le cash qui compte apparemment. Personne ne prie pour moi à part maman. J'connais aucun négro qui sait garder un secret. À part un mort, vous êtes dans une matrice, bande de guignols. Aux carrières meurent, j'danse comme Ronaldinho. J'suis piquant comme un piment jalapeno. J'essaye d'expliquer aux minots que sans là ça c'est ma nino. Faut pas commander de filet mignon. J'suis ni un caïd, ni un saint, ni accro à la cocaïne. J'suis simple, c'est ce que chantait Luciano. Mais en vrai, ça pue la merde d'être connu sans être riche. Ça pue la merde d'être connu sans être riche. Ouh, ça pue la merde d'être connu sans être riche. Yeah, yeah. Ça pue la merde d'être connu sans être riche. Ouh, ça pue la merde d'être connu sans être riche. Ça pue la merde d'être connu sans être riche.
Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Et on est en direct sur RCN 90.7, on vient d'écouter le morceau de Thury, reconnu sans être riche, et on passe le bonjour à Aïcha qui nous écoute depuis la Martinique. Alors, je suis avec Ali Boulayoun, qui est donc chercheur et sociologue du travail. On parle ensemble du projet de loi Plein Emploi et plus particulièrement du volet RSA. Ali Boulayoun, est-ce que il y aura des impacts sur la dynamique du marché du travail et des individus concernés par le fait d'être obligés probablement de faire ces 15 heures d'activité par semaine? Quelles sont les conséquences sociales et économiques qui peuvent découler de cette obligation?
Plusieurs choses, hein, je pense. C'est d'abord de mettre les allocataires du RSA en difficulté en les détournant de leur activité de recherche d'emploi. Parce que, encore une fois, je pense qu'il y a un bon nombre d'allocataires du RSA qui sont chômeurs, hein, qui sont en recherche d'emploi. C'est de contraindre, je pense, les allocataires à s'inscrire dans des activités occupationnelles pour respecter les termes de la loi. donc les fameux 15 heures d'activité, des activités probablement qui seraient qui sont sans intérêt, mais peut-être aussi hein, des activités pour lesquelles ils n'auront pas forcément des compétences. Hein. Et moi, l'autre difficulté que je vois, bah, c'est qu'il va falloir quand même encadrer ces activités. Et là se pose un autre problème, celui des encadrants. Il va falloir quand même, me semble-t-il, beaucoup de monde pour encadrer ces allocataires et des centaines de milliers d'heures d'activités hebdomadaires qui vont être finalement mises sur le marché. Hein. Vous imaginez, je prends l'exemple de la Meurthe-et-Moselle, il y a, il me semble, à peu près 20 000 allocataires du RSA. Mmh. Vous multipliez par 15 et vous aurez, je crois, si je ne me suis pas trompé dans les calculs, 20 fois 15, ça fait 300 000 heures d'activité par semaine à trouver pour les allocataires. Peut-être pas 300 000, on va dire, allez, on va être... on va dire 250 000 parce que, ou 200 000 parce que certains allocataires ne seront pas forcément disponibles. Et vous voyez la somme énorme d'heures d'activité qu'il va falloir donner, proposer et encadrer. Ne serait-ce qu'en termes d'accompagnement. Hein, et ça ne va pas être simple du tout. Hein. Moi, ce que je trouve dans cette affaire vraiment problématique en tant que chercheur, c'est finalement le peu de considération que l'on a à l'égard des gens qui sont en difficulté. Dans les politiques de l'emploi au sens large, il me semble qu'on ne traite pas les bénéficiaires de la même façon. Hein. On porte un regard différent à l'acteur considéré et c'est pour moi un vrai problème. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la politique de l'emploi elle s'adresse quand même à deux acteurs. Elle s'adresse donc aux personnes qui sont en recherche d'emploi, donc les chômeurs, mais elle s'adresse aussi aux entreprises. Et moi, quand je vois la façon dont on traite ces deux acteurs, ça me pose quand même problème. Hein.
Parce que la fraude sociale... La fraude des entreprises est 70 fois plus grande que la fraude à l'aide sociale.
Oui, mais moi je pensais surtout que, vous savez, si on s'intéresse aux aides qui sont octroyées aux entreprises, alors le montant de ces aides, il est considérable, il n'est pas précisément évalué, mais c'est, d'après les rapports dont on dispose, hein, c'est entre 140 et 200 milliards d'euros par an, selon les sources, et ces aides pèsent quand même entre 6 et 8% du PIB. C'est quand même énorme. Et le dernier rapport qui est sorti, c'est un rapport de l'IRES, donc c'est un institut sérieux, c'est l'Institut de Recherche Économique et Sociale, qui a été publié donc en 2022, qui estimait le montant total des aides octroyées aux entreprises à 157 milliards d'euros.
Alors que les aides... Pour le RSA coûte à peu près 12 milliards d'euros, soit 0,5% du PIB. Hein, pour nous.
Oui, c'est ça.
À titre comparatif.
Justement. Et je voulais préciser donc cette recherche hein, qui porte d'ailleurs un titre évocateur, hein, un capitalisme sous perfusion, hein, donc estime à 157 milliards d'euros les aides aux entreprises. Il me semble qu'un rapport qui a été publié 2 ans avant, un rapport de la CGT lui estimait l'aide totale à environ 200 millions, mais on va dire bon, que l'aide, elle se situe autour de 150-160 millions. C'est d'ailleurs ce que disait Darmanin à l'époque où il était ministre des Comptes. Hein. Il estimait que l'aide aux entreprises qui était évaluée à l'époque à 140 milliards, il reprenait à son compte ce chiffre. Hein. Darmanin déclarait donc... à l'époque, qu'il souhaitait réduire de 5 milliards chaque année ces aides qui étaient octroyées aux entreprises et qui étaient de son point de vue très, très importantes. Et donc, des aides très importantes, et il faut ajouter hein, que que ces aides qui sont octroyées aux entreprises ont quand même des effets limités en matière de création d'emplois. Il y a très peu de création d'emplois qui sont générées par ces aides, parce que beaucoup de ces aides vont à l'allègement des cotisations sociales, pour réduire d'autant le coût du travail d'ailleurs, pour aider à la création d'entreprises, etc. Et ces aides, la plupart, la très grande majorité de ces aides, n'est pas conditionnée. N'est pas conditionnée. On ne demande pas aux entreprises des comptes suite aux aides dont elles bénéficient. Et à côté de cela, on a les minima sociaux, donc ces aides monétaires qui sont octroyées aux individus. Ce n'est pas grand-chose comparé aux aides que perçoivent les entreprises. Comme vous avez dit, le RSA, c'est un montant de 12 milliards d'euros. C'est 0,5% du PIB. L'autre minima social qui est important, c'est l'allocation adulte handicapé. C'est un peu moins de 1 200 000 bénéficiaires pour un montant de 11 milliards. Et si on prend, puis l'ASS, l'allocation spécifique de solidarité, ça couvre 350 000 personnes. Je ne sais pas si vous connaissez l'ASS, c'est l'allocation qui est versée aux chômeurs qui ont travaillé 5 ans dans les 10 dernières années. Et l'ASS, c'est une dépense de 2 milliards, donc qui couvre 350 000 personnes. Et en tout, les minima sociaux donc couvrent pratiquement un peu plus de 10% de la population. Avec les ayants droit. Donc c'est 7 millions de personnes qui sont couvertes, donc 10% de la population, et ça coûte au total 30 milliards d'euros, c'est-à-dire 1,5% du PIB. Et là, les aides sont quasiment toutes conditionnées, les RSA, la AAH, l'ASS, et le minimum vieillesse.
Et il faut préciser aussi que pour le RSA, il y a des démarches avec des questions parfois intrusives et qu'une personne sur trois refuse, en tout cas ne bénéficie pas, qui pourrait avoir prétendre à ces aides, n'en jouit pas, donc soit par choix ou par dépit ou d'autres raisons, mais voilà.
Ah, vous faites référence au phénomène de non-recours, c'est ça ?
C'est exactement.
Oui. Bah, le non-recours, justement, là on pourrait dire aussi des choses sur le non-recours. Le non-recours, ça fait économiser, le non-recours aux allocations. Aux allocations fait économiser chaque année à l'État un peu plus de 6 milliards d'euros. Vous vous rendez compte, là aussi c'est énorme. Et dans ce non-recours, la catégorie de non-recours la plus importante, c'est les personnes qui ne demandent pas le RSA parce que elles ne sont pas informées, pas suffisamment informées sur cette allocation. Et les démarches parfois sont telles que elles abandonnent en cours de route.
Donc on peut se retrouver face à des démarches dissuasives.
Oui, aussi, oui. Et moi, j'ai un peu le sentiment aujourd'hui que qu'il y a comme une sorte de poids de mesure. Du côté des entreprises, on est plutôt bienveillant, large et généreux. Et du côté des allocataires, donc des personnes qui subissent la précarité et les conditions de vie difficiles, on est beaucoup plus regardant, quoi. Et ça, c'est pour moi vraiment un gros problème aujourd'hui.
Vous parlez de précarité. Certaines critiques affirment que ces mesures peuvent augmenter la précarité plutôt que favoriser l'emploi. Qu'en pensez-vous?
Oui, alors, je pense, comme je le disais tout à l'heure, que ces mesures vont avoir des effets sur les trajectoires des allocataires, et que dans certains cas, oui, ça va augmenter ces situations de précarité, plutôt que de favoriser l'accès à un véritable emploi. Il faudra prévoir des évaluations dans quelques mois pour voir comment les choses comment les choses se déroulent, hein. Mais il est vraisemblable que les allocataires du RSA vont entrer dans cette dynamique, dynamique très contraignante, donc de livrer 15 heures d'activité par semaine. Je ne sais pas comment ça va être planifié, si ça va être planifié à la semaine, au mois, etc. Et ça va pas faciliter leur, encore une fois, leur recherche d'emploi. Alors que, encore une fois, les études hein, que l'on fait en sociologie hein, sur cette population-là, on voit bien qu'une une partie importante de cette population attend un emploi. Hein. L'attente de cette population, c'est l'emploi, c'est pas les stages, c'est pas les activités de formation, d'insertion sociale, etc. C'est vraiment trouver occuper un véritable emploi.
Parce qu'on peut tomber. Allez-y, je vous en prie.
Je pense qu'on les aiderait beaucoup si on jouait le jeu de leur octroyer un véritable emploi plutôt que de les inscrire dans des logiques contraignantes hein, qui seront celles de la mesure plein emploi du gouvernement.
Donc on a une forme de... Oui, on peut craindre une forme de travail dissimulé, même si le gouvernement s'en défend très largement. On rappelle que avec les montants du RSA, on n'est même pas à la moitié, la moitié du seuil de pauvreté en France, qui est évalué à 1100 euros.
Oui, c'est ça. On est très loin, effectivement, parce que le seuil de pauvreté, c'est la moitié du salaire médian, hein, donc c'est entre 50 et 60% du salaire médian, hein, selon les définitions. Et là, on est donc quasiment à la moitié hein, du seuil de pauvreté. Hein. Le seuil de pauvreté, c'est quelque chose comme 1000 euros, je crois, entre 900 et 1000. Et là, on est à 500, 600, enfin, ça dépend si les allocataires ont le... l'allocation logement ou pas. Mais effectivement, on est très loin du compte. Et en plus de cela, on leur met continuellement la pression. On les considère comme des personnes qui fuient l'emploi, qui veulent vivre au crochet de la société, alors qu'il n'en est rien, encore une fois. Nos enquêtes montrent que... Les attentes en matière d'emploi des allocataires du RSA sont les mêmes que celles des chômeurs.
Est-ce que ce genre de politique favorise le mythe de l'assistanat, justement, parce que vous avez mis en perspective les aides octroyées aux entreprises. On peut aussi parler des aides pour les élèves à l'université, parce que c'est vrai qu'on ne les perçoit pas, mais il y a là aussi un coup de pouce de l'État, alors que ce sont souvent des catégories sociales représentées, sont les catégories d'enfants de cadre, etc., sont surreprésentées à l'université. Est-ce que finalement cette politique va desservir la vision qu'on peut avoir des personnes au RSA ?
Elle va encore à nouveau accentuer hein, la stigmatisation de cette population hein, en la pointant du doigt, en considérant que c'est une population qui veut vivre au crochet de la société. Et ça va pas arranger hein, la représentation ordinaire que la société a des personnes qui vivent un peu à la marge, quoi. Moi, je pense qu'on est vraiment que ces logiques de stigmatisation qui sont bien senties par le gouvernement, toujours dans la perspective de diviser les populations. Hein, parce que là, on peut très bien diviser aussi les chômeurs et les allocataires du RSA. Hein, quand on voit aussi ce qui se passe hein, côté indemnisation du chômage, il y a des questions à se poser. Et donc, moi, je pense que on va accentuer les difficultés de cette population.
Ali Boulayoun, pour terminer, quelle a été la réaction de la société civile à cette mesure et quelles sont les principales préoccupations soulevées par les groupes d'activistes, d'associations ou d'experts en matière de droits sociaux?
Alors là, comme on pouvait s'y attendre, hein, les sons de cloche sont différents, non, dans la société civile. Hein. Moi, j'ai lu quelques réactions des associations caritatives, notamment, comme ATD Carmonde ou Emmaüs, hein, qui sont un peu inquiètes de la mise en place de cette loi, parce qu'elles pensent que cette loi va à nouveau accroître donc la stigmatisation à l'égard des pauvres. Elle pourrait d'ailleurs, vous savez, ces associations pourraient d'ailleurs en profiter et accroître leur activité avec toutes les heures d'activité hein, que justement qu'il va falloir trouver pour être en conformité avec la loi. Mais elles ne sont pas du tout sur ce registre. Hein. Elles réaffirment, et à juste titre d'ailleurs, que le droit à un revenu minimum doit rester un droit inconditionnel. Elles sont plutôt, en tout cas aujourd'hui, préoccupées par la nécessité hein, d'accompagner véritablement les allocataires hein, pour qu'ils puissent retrouver un emploi, un véritable emploi. Du côté des syndicats, il n'y a pas de surprise non plus. Hein, on retrouve avec cette loi les divisions classiques hein, entre on va dire les syndicats réformistes, comme par exemple la CFDT ou la CFTC, et des syndicats qui sont, on va dire, plus ancrés à gauche, qu'on qualifie de révolutionnaires, hein, comme les syndicats Sud ou la CGT. Je sais que la CFDT, elle partage les ambitions de cette loi, en tout cas c'est comme ça qu'elle formule sa position. Hein. La CFDT, dit-elle, sera vigilante dans la mise en œuvre de la loi. Tout est dit hein, dans ces propos. Il hein. N'y a pas de, comment dire, de position claire vis-à-vis de cette loi. Hein. On va voir et puis on verra bien. Mais en tout cas, la CFDT, une chose est sûre, c'est qu'elle partage les ambitions de cette loi plein emploi. Les syndicats qui sont plutôt, on va dire, ancrés à gauche, les syndicats qui sont plutôt... qui se qualifient plutôt les révolutionnaires, sont vent debout hein, contre cette loi qui va, disent-ils, ouvrir les vannes du travail gratuit. En tout cas, c'est comme ça qu'ils interprètent hein, cette loi plein emploi.
Et les experts,
ils n'ont pas tout à fait tort. Hein, encore une fois, il n'y a pas que ça dans cette loi. Il n'y a pas que la possibilité de développer le travail gratuit. Il y a bien d'autres choses, hein, comme le contrôle social des populations pauvres, choses comme ça.
Et les experts, qu'en disent-ils? Est-ce que vos collègues chercheurs, vous avez eu le temps d'en discuter? Qu'est-ce qu'il en ressort?
Je vous avoue que... Là, pas vraiment, hein, parce que c'est quelque chose qui est arrivé vite. Hein. Nous sommes au sein de mon laboratoire, le 2L2S, hein, le laboratoire de sciences sociales. Nous sommes une petite équipe de 4 chercheurs à lancer donc une étude sur l'expérimentation du RSA conditionné dans les Vosges. Nous sommes dans l'équipe 2 sociologues et 2 économistes. Et pour le moment, on est plus dans la mise en place d'une méthodologie de recherche pour pouvoir justement accéder aux différents lieux où va se mettre en place donc cette loi, c'est-à-dire les conseils départementaux, Pôle emploi, et puis aussi les associations qui participeront sans doute à ce travail donc de mobilisation de mise au travail des allocataires. Mais pour le moment, je vous avoue qu'on n'a pas beaucoup avancé dans la réflexion, en termes d'expertise.
Eh bien, on laissera le temps passer et puis ça sera peut-être l'occasion de faire un bilan ou alors de porter un regard un an après. Pour conclure, Ali Boulayoun, je vous laisse le mot de la fin.
Je dirais, comment dire, encore une fois, pour avoir enquêté auprès des allocataires du RSA, des chômeurs, des chômeurs longue durée, etc., et parfois des deux à la fois, parce qu'il y a beaucoup de chômeurs qui sont allocataires, hein, évidemment, y a une chose qui ressort fortement, c'est vraiment le désir de travailler, d'avoir un emploi, mais un vrai emploi. Pas des emplois qui singent l'emploi, des emplois précaires, des emplois de très courte durée comme ça, des emplois qui ne permettent pas finalement aux individus de vivre décemment. Et faisons le pari fiche, hein, disons, voilà, l'objectif c'est de mettre les individus, tous les individus en emploi, mais sur de véritables emplois, sur des emplois pérennes, sur des emplois qui, encore une fois, permettent à leurs titulaires de vivre décemment. Moi, je pense que c'est ça qu'il faudrait fixer comme objectif dans une loi dite de plein emploi, et pas à nouveau stigmatiser une population qui est déjà largement stigmatisée et largement en difficulté. Quoi.
Très bien. Eh bien, je vous remercie, Ali Boulayoun. Je rappelle que vous êtes chercheur, sociologue du travail. Vous travaillez sur le chômage, les politiques de l'emploi et l'accompagnement. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission. Pour toutes les personnes qui veulent écouter le podcast de cette émission, il sera disponible dès la semaine prochaine sur notre site www.rcn-.org. Et quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine avec Marianne Thibault et on parlera ensemble de l'engagement dans l'art. Merci Ali Boulayoun.
Merci à vous et au plaisir.
Au plaisir, au revoir.
Au revoir.
Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to?